Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour notre rencontre de ce soir. De commencer par nous tourner vers l'éveil et d'éveiller en nos cœurs la motivation altruiste et bienveillante de Bodhicitta. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en. Par les bienfaits des dons, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Ce soir, nous accueillons des invités. Nous avons des pratiquants de l'Aïkiryu. C'est ça? Je me suis entraîné. Hein. Madame Abelé. Ah. Isabelle, bonsoir. Content de vous revoir. Et nous avons aussi la suite de notre retraite autour de la pratique du Bouddha. De la bonté, du Bouddha, de l'amour et de la compassion, Chenrezig. Donc, nous allons commencer par le rapport du cercle d'échange qui a eu lieu cet après-midi, qui a un rapporteur, je pense, et ensuite, s'il y a des questions, des point que vous souhaitiez aborder, hein, nous ouvrirons la parole. Qui est le rapporteur?
Il y en a trois.
Patrice, Nicole et Françoise. Eh bien, on peut tourner en commençant par Nicole. Là, là.
Micro.
Eh bien, Patrice a le micro, donc s'il vous plaît.
Bonsoir. Donc, je suis porte-parole du groupe de cette personne qui a suivi l'enseignement. Et voici donc les questions que nous avons posées. La première est la suivante. Comment est-ce qu'on peut transférer sa pratique de sadhana dans la vie concrète de tous les jours ?
Très simplement et très facilement, en vivant au jour le jour dans ses faits et gestes quotidiens, ses activités professionnelles, familiales, quelles qu'elles soient, en vivant en celle-ci la présence de Chenrezig. Donc la question est, et que signifie la présence de Chenrezig dans notre vie quotidienne? C'est la présence de la bonté, de la bienveillance, de l'altruisme. C'est aussi la simple présence ouverte. Et cette présence que l'on peut dire celle de bodhicitta, pour les personnes qui connaissent le terme, c'est-à-dire celle d'un cœur et d'un esprit éveillé, d'un cœur et d'un esprit ouvert, d'un cœur et d'un esprit altruiste, bienveillant, empathique, cette présence de bodhicitta relatif, relationnel et absolu, immédiat dans l'instantanéité présente, cette présence de bodhicitta est la présence de Chenrezig. Chenrezig est bodhicitta en personne. Bodhicitta en personne. Et la dynamite du sadhana et la pratique du sadhana, sa pratique assise, sa pratique en action, est une méthode, une façon extrêmement profonde et efficace pour intégrer justement un bodhicitta en sa vie, donnant à bodhicitta une réalité dynamique, énergétique, personnelle, vivante, avec le yoga. Le yoga de la phase de génération, le yoga de la phase de perfection, c'est-à-dire la présence à Chenrezi, bodhicitta relationnelle, et la présence à Chenrezi, bodhicitta absolue, présence absolue. Dans sa vie quotidienne, pour commencer simplement avec la récitation du mantra, alors cet outil tout à fait spécial, particulier, du mantrayana, de la voix du mantra, qui est Om Mani Padme Hum. Et la formule et l'utilisation d'une formule comme rappel est une façon extrêmement efficace pour justement intégrer cette pratique dans notre vie quotidienne. Ce matin, nous avions des amis vietnamiens qui étaient là, et la vénérable disait comment ils ont l'habitude, pour dire bonjour, d'utiliser le mantra Amitofu. C'est Amitabha. C'est comme vous rencontrez quelqu'un, vous dites Chenrezi. Om Mani Padme Hum. Chaque fois que l'on rencontre une personne, chaque fois que l'on est en situation relationnelle, le mantra est un rappel. Et c'est une façon d'initier la communication, d'initier la relation de cœur à cœur, de Bouddha à Bouddha, de Chenrezi à Chenrezi, de bon fond à bon fond. De cœur à cœur est l'expression que l'on utilise traditionnellement. Et de cœur à cœur signifie d'esprit pur à esprit pur, de fond à fond, sans projection, ou avec comme projection la projection de Chenrezi et la projection du bon fond, donc sans autre projection que la connexion au bon fond. Dans les situations relationnelles, ainsi, aussi, lorsque nous communiquons par ces outils modernes qu'on appelle des téléphones ou des portables, quand ça sonne, on utilise la sonnerie comme le son du gong, comme un rappel. Drin, ça fait plus drin aujourd'hui, ça fait tong tong. Et une respiration. Om mani padme hum. Et c'est peut-être mentalement aussi. Oui. Et d'initier ainsi la communication, la relation, de bon fond à bon fond, de personne à personne, de personne authentique à personne authentique. Donc, dans toutes les situations relationnelles, avec le rappel du mantra, et aussi toujours avec le rappel du mantra, la simple présence, apparence, sonorité, pensée vide de saisie, comme nous l'avons discuté, pratiqué, expérience de l'observateur abstrait, c'est-à-dire de l'observateur détendu, de la conscience détendue, de la conscience ouverte, Om Mani Padme Hum, conscience ouverte, quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, sans une exception. Et donc des rappels ainsi instantanés ou fréquents, constants, le plus régulièrement possible, et puis intégrer aussi à l'occasion de circonstances particulières, quand on se réveille, quand on s'endort, au moment des repas, avec, c'est peut-être juste le mantra où il peut y avoir des rappels un petit peu plus élaborés, mais le mantra c'est déjà parfait. Om Mani Padme Hum. Et la répétition régulière du mantra avec des circonstances particulières qui font partie aussi de l'entraînement. C'est un entraînement. Et ainsi la présence s'intègre aussi bien dans le relationnel que dans l'immédiateté. Et notre vie devient pratique. Bodhicitta et la pratique de Chenrezig comme la pratique active de Bodhicitta est la pierre philosophale qui transforme toute la vie en une pratique qui fait que toutes les activités ordinaires d'une vie habituelle deviennent l'or d'une pratique éveillée, d'une pratique d'éveil. Merci.
Deuxième question.
Allons-y.
Allons-y. Donc, voyons voir. Voilà. À l'issue de la phase de perfection, est-ce que l'on projette une lumière de la bonté fondamentale ? Mmh.
À la fin de la phase de perfection, à la fin de la phase de perfection, on revient à la présence de Chenrezig. Si l'on suit le sadhana, dans la phase de perfection et la période silencieuse, de simple contemplation, présence d'immédiateté ouverte. Et à la fin de la phase de perfection, il y a Om Mani Padme Hum, et il y a toutes petites trois vers qui sont une indication pour l'intégration. Corps et formes, miens et autres sont le noble. Sens et paroles, la sonorité du mantra. Toute pensée, l'immensité de la gnose. À la fin de la présence ouverte, il y a un retour dans la présence de Chenrezig, mais une présence omniprésente. Lorsque l'on dit corps et formes, miens et autres sont le noble, corps, c'est les corps de tous les vivants, formes, toutes les formes, c'est-à-dire tout le visuel, miens et autres, toute ta apparence visuelle, que ce soit celle d'autres ou les miennes, sont le noble, sont Chenrezig. Comme commentaire, vous pouvez avoir présent à l'esprit la prière d'autolibération de Padmasambhava, que nous chantons à la fin. Ici, tout ce qui est apparent, dans l'état de non-saisie, clarté vide des corps de déité, ainsi, dans cette clarté vide de saisie, omniprésente, qui est le corps de la déité, le corps de Chenrezig, apparence vide, toute sonorité, la résonance du mantra Om Mani Padme Hum, sonorité vide de saisie, sonorité vide, et toute pensée, l'immensité de la gnose, c'est-à-dire tout ce qui émerge dans l'esprit, émerge dans la présence ouverte, l'ouverture absolue d'une la présence ouverte. Et c'est cette présence ouverte qui, lorsqu'elle est véritablement réalisée, constitue l'esprit de Chenrezig, est l'esprit de Chenrezig. Et donc de continuer avec l'expérience de l'ouverture, de la présence ouverte, en laquelle toute pensée est libérée en dharmakaya, je paraphrase de nouveau Guru Rinpoche, c'est-à-dire en l'expérience de gnose. Par gnose, on entend l'immédiateté, l'intelligence et l'expérience d'immédiateté. Donc, à la fin de la phase de perfection, on revient à une présence de Chenrezig omniprésente, alors plus ou moins avec ou sans support, mais en tout cas avec le rappel du mantra qui est le rappel de la présence.
Merci. Troisième et dernière question, puisqu'on nous a demandé de nous modérer nos ardeurs, puisque nous sommes trois personnes. Vous avez parlé, toujours pour la phase de perfection, vous avez utilisé l'image d'un endormissement de la clarté ouverte. Est-ce que donc, dans cette phase de perfection, on peut adjoindre Tonglen dans l'attention au souffle ?
Tonglen dans l'attention au souffle peut se pratiquer associé au mantra. C'est pas forcément la phase de perfection, ce sera intermédiaire entre la phase de génération et la phase de perfection. Et il est très bien d'associer la pratique de Tonglen avec la récitation du mantra. Plusieurs façons de faire sont possibles. Om Mani Padme Hum peut être simplement le rappel pour vivre tonlen signifiant accueillir, offrir, accueillir ce qui est et accueillir au-delà des réserves, des réticences et des blocages, l'accueil d'un oui inconditionnel. Et offrir, s'offrir, donner, là aussi, au-delà de la possession, de la possessivité, des résistances et des blocages, dans une générosité inconditionnelle. Donc, associer au souffle, accueillir, inspire, offrir, expire. Donc, le mantra comme rappel d'accueillir, offrir, ainsi. Et aussi, il est possible de synchroniser la respiration avec le mantra. Auquel cas, sur l'inspiration, il y a « Om ». Sur l'expiration, il y a « Rung ». Et entre les deux, « Mani Padme », c'est-à-dire le joyau dans le lotus, le joyau d'Om Mani Padme Hum dans le lotus du cœur, Om d'inspirer juste dans le lotus du cœur, Om Mani Padme Hum, et Rung d'expirer. C'est ainsi, très bien, et c'est une façon de faire très profonde.
Merci.
Merci, Patrice.
C'est moi, je suis là.
Et vous avez le bâton de parole, Nicole. Pardon, il faut mettre le... comme une barbichette égyptienne, comme ça. Comme ça doit toucher le menton.
Alors, je pose mes questions. La pratique de Chenrezi n'est-elle que typiquement tibétaine? Et quelle est l'origine de Chenrezi?
L'origine de Chenrezi est l'éveil, l'état d'éveil, l'éveil d'un Bouddha, la bouddhéité, l'éveil absolu, naturel et universel. Et la pratique de Chenrezi se trouve sous le nom de Chenrezi Avalokiteshvara avec ses différentes traductions dans toute... avec quelques nuances, dans toutes les traditions bouddhistes de la voie universelle. Donc, ça n'est pas spécifiquement tibétain au sein du bouddhisme, et c'est fondamentalement universel.
Une question. Vous avez parlé des cinq sagesses et des cinq dimensions de l'expérience de l'éveil. Peut-on en avoir les définitions?
Le Vajrayana, la voix d'Amantine, est une voie de la transmutation. Donc c'est une pratique alchimique qui opère une transmutation de l'énergie, une transmutation de l'énergie cognitive, une transmutation de l'énergie qui est ce que je suis et vis. Donc, une transformation, une transmutation de ce qui constitue l'être et son expérience, la conscience et ses expériences, la cognition et tout ce qui s'y vit. Donc, cette transmutation, si on prend l'image de l'alchimie en laquelle le plomb ou le fer se transmute en or, la matière première, la materia prima, reste, mais sa nature change. La substance demeure, mais sa nature change. Dans notre expérience, ainsi, notre expérience signifiant ce que nous vivons, ce que nous sommes et vivons, s'opère une transmutation de cette matière première qui est nos expériences et nos émotions d'une telle façon que les obstacles ou les difficultés deviennent des ressources. Il y a une transformation, une transmutation du mauvais en bon, des obstacles en ressources, et particulièrement une transmutation des passions ou émotions conflictuelles. Alors, passion et émotions conflictuelles, là, sont des synonymes. Il y a des émotions de participation, des émotions conflictuelles. Par émotions conflictuelles, on entend la haine, la colère, l'agressivité, l'avidité, désir, attachement, même aussi la stupidité, l'indifférence, aussi encore la jalousie, les attitudes de rivalité, et même aussi l'orgueil. Donc, toutes ces émotions conflictuelles qui sont des obstacles, qui sont des empêchements, qui sont des sources de conditionnement douloureux, qui sont des sources de souffrance. L'énergie de ces passions conflictuelles est, dans la pratique du Vajrayana, transmutée en ressources, en expérience éveillée, en sagesse. Alors, on peut dire expérience éveillée, on peut dire sagesse, en expérience première, en expérience primordiale. Et c'est là que se situe cette intelligence qui est celle aussi du mandala de la vie, du mandala cognitif de ce que nous sommes et vivons. Les cinq, dans une typologie, dans un paradigme qui est en cinq, qui est, lorsqu'il est dans une présentation visuelle, consiste en un centre avec les quatre orients. Les cinq émotions conflictuelles de base sont transformées en les cinq expériences premières de base. La colère ou l'agression. L'agression est transmutée en ce que l'on nomme l'expérience première semblable au miroir. L'orgueil est transformé, transmuté en l'expérience première de l'équanimité. Le désir-attachement est transformé, transmuté en l'expérience première du discernement. La jalousie transmutée en l'expérience première tout accomplissante et la stupidité, l'indifférence transmutée en l'expérience première du domaine absolu. Alors, cette transmutation qui fait que les émotions conflictuelles deviennent des énergies éveillées s'opère dans la solution, la dissolution des illusions adventices, des illusions accidentelles, des illusions surimposées qui consistent en la saisie duelle, la saisie sujet-objet. Ou, dit autrement, la conscience habituelle. Donc, ce serait pour l'instant peut-être pas le propos, ce n'est pas vraiment le propos d'entrer dans les détails, mais prenons un exemple. L'agression. Dans l'agression, il y a une énergie éminemment conflictuelle et éminemment agressive. Et l'agression se constitue sur le mauvais objet. L'agression, lorsqu'elle se dépossède de son objet et se dépossède aussi de son sujet, lorsque l'agression se relâche, lorsque la conscience d'agression se relâche, elle, son caractère conflictuel se dissipe et son énergie subsiste, une partie de celle-ci subsiste, dans une forme d'intelligence. Il y a dans l'agression aussi une forme d'intelligence, une forme de, d'intelligence pointue ou aiguë ou aiguisée, une forme de, il y a dans l'agression une forme de clarté. Alors, exemple, si on dit « je voudrais être clair » ou « soyons bien clairs ». Alors, il y a la clarté, mais la clarté peut devenir incisive. Hein? « Soyons bien clairs » et devenir très pointu et piquant. Donc, l'agressivité se trouve qui est obstacle, libérée de la saisie duelle, se trouve transmutée en cette intelligence semblable au miroir qui se dit aussi l'intelligence de la clarté. Et la clarté, lorsqu'elle est possédée, devient quelque chose de très incisif, voire agressif. Donc, c'est un exemple de comment une émotion conflictuelle peut devenir une intelligence première. Et c'est ainsi qu'il y a cette transmutation dans les cinq domaines que j'ai mentionnés. Si vous en voulez un commentaire un petit peu plus détaillé, vous pouvez l'écouter de Go Rinpoche, Padmasambhava, dans les souhaits du Dzogchen qui sont pratiqués, récités fréquemment le matin ici et qui se trouvent dans les textes de pratique. Et dans toute la deuxième partie de ce souhait, il expose comment ces émotions sont auto-libérées, sont libérées de leur... se libèrent d'elles-mêmes dans l'ouverture relaxée. La relaxation de l'ouvert. S'il vous plaît. Vous avez fini. Et s'il y avait d'autres... Ah mais, vous aviez disparu tout à l'heure.
Oui, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, c'était un peu notre question aussi. Alors, est-ce que le sadhana de Chenrezi est suffisant donc, pour transmuter les passions?
Affirmatif. Et,
voilà. Et donc suffisant, à lui tout seul.
Tout à fait.
Et donc, pendant la phase de perfection, est-ce que, dans l'état de suspension, est-ce que c'est un moyen pour libérer les empreintes karmiques négatives?
Affirmatif.
Bon, ben voilà. Alors,
les empreintes karmiques négatives, c'est une façon de parler, c'est ce que l'on nomme aussi les samskaras. Mm-hmm. Alors, on en entend par samskara les empreintes que l'on porte en soi dans la conscience de tréfonds, comme on dit, dans le fond de sa conscience. Donc, ce sont les empreintes du passé, de tout notre héritage du passé, tout ce qui s'est passé et qui a laissé des empreintes, toutes les empreintes possibles, avec les traumatismes, les habitudes, les bonnes et les mauvaises, même empreintes, quelles qu'elles soient. Et ces samskaras, donc ces informations, samskara peut se traduire par information, ces informations qui subsistent dans notre conscience fondamentale sont celles qui manifestent de nouveaux états de conscience et modelant, mettant en forme, informant la conscience, aussi bien dans sa structure que dans son contenu. Et c'est le processus du karma. Ces samskaras se dissolvent dans la présence ouverte. Lorsque l'on est dans l'état de contemplation, de présence ouverte, d'ouverture sans saisie, il y a des choses qui émergent, des pensées, des émotions, ou des fois, en tout cas, des émergences. Mais dans l'ouvert, ces émergences sont sans suite. Et dans cette non-suite, ces émergences se déchargent. Et c'est une façon de dire que les samskaras se dissolvent ou que le karma se purifie. Trois façons de dire la même chose. Et en bref, il s'agit simplement entre guillemets, de rester suffisamment longtemps dans la présence ouverte pour que tous les samskaras se dissolvent et s'épuisent. Et l'épuisement final de tous les samskaras est ce que l'on nomme le grand épuisement. En tibétain, ça se dit dzogchen. Et ça se dit aussi nirvana. Nirvana a le sens d'extinction. Et l'image du nirvana serait, si l'on considère une lampe à beurre, la métaphore est une lampe à beurre, une lampe à huile, avec sa flamme, et la flamme brûle l'huile. Et quand l'huile est épuisée, la flamme s'éteint. Une petite difficulté dans la métaphore. Mais l'huile, ici, ce sont les samskaras. Et la flamme, c'est l'individualité. Et quand les samskaras sont épuisés, la flamme de l'individualité, de l'ego, s'éteint. Donc, cette grande fin, ce grand épuisement est nirvana et se dit aussi dzogchen. Et sa pratique est celle de l'authentique présence ouverte dans laquelle les samskaras se dissolvent en une énergie libre de clarté, de lumière. S'il vous plaît.
Voilà une deuxième question qui est souvent posée dans d'autres séminaires. Alors, comment susciter en nous la bonté que vous avez comparé à celle d'une mère ou d'un père, quand on ne l'a pas connu, ou alors quand on est en conflit avec ses parents, je ne sais pas.
C'est difficile, c'est plus difficile, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et cette bonté n'est pas ailleurs, elle est en soi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à fabriquer, mais c'est quelque chose que l'on peut découvrir en soi. Et justement, dans la présence ouverte, et nous avions pris l'image aussi du petit enfant, du petit bébé qui, dans le giron de sa maman, qui se sent en sécurité et qui peut s'abandonner. Dans cet abandon, dans l'abandon dans l'ouvert, l'abandon dans sa nature, se révèle, se découvre, cette bonté émerge, cette bonté rayonne, cette bonté. Donc, elle n'est pas fondamentalement dépendante de quelque chose d'extérieur, ni de la comparaison ou du souvenir d'une expérience vécue. Vous donnez...
Une dernière question.
Une dernière question, s'il vous plaît.
Comment pratiquer la méditation des six mondes dont vous avez parlé ce matin? Et à quel moment doit-on l'incorporer dans la pratique?
Pendant la récitation du mantra. Et c'est même bien de la pratiquer au début de la récitation du mantra. Donc, au début de la récitation du mantra, pendant un certain temps, ce rayonnement du cœur, avec ce rayonnement et résorption, dans la purification et l'intégration, la purification et la consécration, comme nous en avons parlé ce matin, pendant la première partie de la récitation du mantra, et en alternance ou avant le samadhi universel, c'est-à-dire apparence, sonorité et intelligence vide. Et s'il y avait d'autres remarques, alors ailleurs, nos amis connectés sur la toile.
Question d'ailleurs, effectivement. Donc Franck Dalvar, vous parliez tout à l'heure des samskaras.
Un voisin, Franck.
Voilà, juste à côté.
Bonsoir.
Comme vous abordiez le sujet des samskaras, il vous pose comme question, quand les samskaras se dissolvent, s'agit-il d'en conserver une trace ou bien de les effacer de la mémoire? S'agit-il, il précise, d'effacer les samskaras?
Il n'y a pas vraiment de gomme à samskara pour les effacer. Les samskaras se dissolvent ou les samskaras se subliment. Comme une goutte d'eau qui s'évapore. Les samskaras se dissolvent dans l'espace, c'est une énergie qui se dissout dans l'espace. Et ça n'est pas le fait d'une action de la conscience, ça n'est pas le fait d'un vouloir ou d'un agir de notre part, mais c'est une dissolution, une libération naturelle et spontanée qui s'accomplit d'elle-même dans la contemplation, dans la simple présence d'immédiateté, dans la simple présence toute ouverte.
Merci.
À ce point, un petit moment justement de contemplation. Détendu, confortable, dans la présence au corps, ça respire naturellement, les sens ouverts, nos yeux ouverts, relâchés, dans une vision globale, panoramique, en laquelle on se détend, on se relâche. Laissant être simplement. Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation, dédiée au bien de tous les vivants, en la réalité absolue. Bonne soirée, que tout soit propice et au revoir.